Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, l'une des plus grandes affaires des années 60, l'affaire Jean-Marie Devaux, du nom d'un gamin de 19 ans un peu simplé, un commis de boucherie qui se retrouve accusé d'avoir égorgé la fille de ses patrons, Dominique 7 ans. Dans cette affaire passionnante et passionnée, vous allez retrouver le chroniqueur d'Europe numéro 1 à l'époque, Frédéric Potcher, au sommet de son art, et la justice française au fond du trou. Cette histoire, nous la débrieferons tout à l'heure avec un témoin direct de cette affaire, l'avocat de Jean-Marie Devaux à l'époque, maître André Soulier, qui publie ses mémoires aux éditions du Cherche Midi, 1001 vies. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
La scène se déroule le 7 juillet 1961 dans un HLM de Bron, près de Lyon, au 156 avenue Saint-Exupéry. Vous voyez la boucherie au rez-de-chaussée ? C'est la boucherie de monsieur et madame Bessard. Et c'est commode, le boucher, la bouchère et leur fille habitent au dernier étage, quelques marches à monter, et ils sont chez eux. Le 7 juillet 1961, donc, en début d'après-midi, Madame Bessard annonce à son commis qu'elle s'absente pour une heure. « Je monte chez moi, Jeannot. Je te laisse, Dominique. Hein? T'es gentil, Dominique, avec Jeannot ?»«
Oui, maman. À tout de suite. »
Dominique, vous l'avez compris, c'est sa fille. Elle a 7 ans. Et donc Madame Bessard monte chez elle. Elle y reste à peu près une heure et quart. Et elle redescend. Et quand elle rentre dans la boucherie...
Jeannot ? Jeannot, elle est où, Dominique ?
Oh, ben, je sais pas où qu'elle est, moi, madame.
Dominique ! Tu l'as vu sortir, Jeannot ?
Bah oui, oui. Elle vient de partir.
Je t'avais demandé de la surveiller. Où est-ce qu'elle est ?
Madame Bessard, immédiatement, mobilise les voisines. Et tout le monde se met à chercher la gamine. Et c'est une voisine, Madame Canard, qui la découvre au sous-sol, dans la cave, un petit corps dans une mare de sang.
Oh mon Dieu, mon Dieu! Elle a été écorchée!
Et elle a aussi une grosse blessure au ventre. Et maintenant, il faut prévenir la mère. Les hurlements de la maman, terribles. Et bien sûr, elle ne veut pas la laisser là, sur le sol froid et sale de la cave. Alors elle la prend dans ses bras, et en larmes, elle va la déposer sur le palier entre le sous-sol et le rez-de-chaussée.
Jeannot, Jeannot, s'il te plaît, tu peux appeler la police ?
Les policiers arrivent, et ils procèdent aux premières constatations.
La mort est récente, hein ? La gamine est encore tiède. Elle a été égorgée, regarde. C'est tranché bien net, hein ? Et je pense que c'est des coups de couteau aussi qu'elle a reçus dans le ventre. Hein.
Assez logiquement, même si la mère a l'air de bien l'aimer, le premier suspect qui se présente, c'est le commis, Jeannot. Ah, vous aussi, vous avez pensé à lui tout de suite, n'est-ce pas ? Il a 19 ans et il a l'air d'être un peu simplé. La mère dit que quand elle est redescendue au magasin, il travaillait.
Approchez-vous, jeune homme, approchez-vous. On peut voir vos vêtements ?
Nickel. Pas de traces de sang.
Où est-ce que vous rangez vos couteaux, jeune homme ?
Ben, là.
Les couteaux sont tous à leur place. Propres et secs.
On n'a pas l'impression qu'ils ont été nettoyés récemment. Hein.
À partir de là, les policiers tentent de reconstituer précisément, minute par minute, ce qui s'est passé entre 2 heures, le moment où la mère monte à son appartement, et 4 heures, l'heure où on retrouve le corps de Dominique. Qui était où? Qui a fait quoi? La dernière à avoir vu Dominique vivante, c'est une voisine, Madame Bourne.
Elle est venue frapper chez moi pour jouer avec ma fille. Il était quoi? 3h15, 3h20? Moi, je lui ai dit que c'était pas possible parce que je devais aller à la poste. Alors elle est partie.
Donc à 3h20, elle était vivante. Or, c'est à peu près à ce moment-là que la mère redescend au magasin 3h, 3h15. Or la mère dit que quand elle rentre dans la boucherie, Jeannot est là. Il travaille. Donc si à 3h20 la gamine était vivante, ça ne peut pas être Jeannot. Mais alors qui ? En menant leur traditionnelle enquête de voisinage, les policiers recueillent 5 témoignages. 5 personnes qui disent avoir vu un homme rôder dans le quartier à l'heure du crime.
Pour moi, ce gars-là, il était d'origine maghrébine. Je me souviens, il avait un blouson noir, brillant. Ah, sur son blouson, il y avait une grosse tache, oui. Moi, je l'ai vu partir vers les cantonnements des ouvriers étrangers là, qui travaillent à l'usine de Berlier, là. Par là-bas, là.
Les policiers font venir un chien pisteur qui effectivement flaire une trace qui va droit vers le cantonnement des ouvriers de l'usine Berlier. Aujourd'hui, un cantonnement de chantier, ce sont des algécoums, mais à l'époque, ce sont plutôt des cabanes en planches. On n'est pas loin du taudis. Les policiers vont fouiller là-bas. Ça ne donne rien. Le corps de la petite Dominique est bien sûr autopsié.
Selon mes conclusions, les coups ont été portés au moyen d'un couteau de grande taille. Ils ont d'abord été portés au niveau de la gorge, ce qui a entraîné la mort, et ensuite au ventre. Voilà ce que je peux dire.
Est-ce qu'elle a été violée, cette petite docteur ?
Non. Aucun signe d'agression sexuelle. Strictement aucun.
Et ensuite, ma foi, l'enquête patine pendant 2 mois. 2 mois plus tard, le 29 août, dans la matinée, Jeannot, le commis, disparaît d'un coup du magasin.
Jeannot ? Jeannot, il est où, notre Jeannot ?
Madame Bessard le retrouve à la cave, étendu sur le sol, une main sur la tête.
Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Jeannot ? Oh, je sais pas, Madame Bessard. On m'a donné un coup sur la tête. Bouge pas, mon Jeannot. Je m'en vais appeler la police.
Les policiers arrivent et ils emmènent immédiatement Jeannot chez un médecin.
J'ai beau regarder, messieurs, je vois pas de traces de coups. Il y a bien quelques griffures, là, mais c'est vraiment rien de grave. Il a très bien pu se faire ça tout seul.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jeannot ? Tu n'as pas été assommé. Tu n'as pas été assommé, tu t'es griffé toi-même. Pourquoi t'as inventé ce bobard ?
Et là, pchit, le gamin se déballonne d'un coup.
Oh, c'est vrai, monsieur. J'ai fait croire que j'avais été attaqué. C'est pour qu'on me croive. Pour qu'on me croive que c'est pas moi qui ai tué la petite. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est moi. Mais c'est pas moi, je vous le jure, monsieur.
On veut bien le croire. On veut bien le croire. Cela dit, il aurait voulu attirer l'attention sur lui, qu'il n'aurait pas mieux fait. 2 jours plus tard, Jeannot est convoqué au commissariat pour un interrogatoire un peu plus musclé.
Bien, mon Jeannot. Tu vas me faire gagner du temps, hein ? Je veux pas y aller par 4 chemins. C'est toi qui l'as tué, la petite, c'est ça ? Bah oui. C'est ça, c'est moi qui l'as tué.
Excellent. Voilà une affaire rondement menée. Sauf que le lendemain, il se rétracte.
Je vous ai dit que c'est moi que je l'avais tué. C'est pas vrai, j'ai dit n'importe quoi.
Allons bon. Voilà qu'il fait marche arrière. Reprise de l'interrogatoire et nouveaux aveux.
Quand la patronne, elle est montée, après j'ai fermé le magasin. Je suis allé à la cave avec la petite, c'était pour aiguiser un couteau. Et c'est elle qui m'a dit, je viens avec toi, Jeannot. C'est pas moi qui ai demandé. Et après qu'on est arrivé à la cave, je sais pas bien pourquoi, j'ai eu envie de la tuer. Alors je lui ai dit, j'avais perdu ma montre, et je l'ai amenée dans un coin qui était tout sombre. Et puis je lui ai donné un coup dans le ventre. Et là, elle a crié. Alors je lui ai mis la main sur la bouche et... Comme j'avais le couteau dans la main droite, je lui ai tranché la gorge. Comme ça, elle ne criait plus.
C'est ce qu'on appelle des aveux circonstanciés. Le jeune Jean-Marie Devaux, 19 ans, est immédiatement conduit devant un juge d'instruction de Lyon. Il lui répète, mot pour mot, la même histoire. Et il le fera une troisième fois au moment de la reconstitution, avec quand même, note le juge, des hésitations. Mais bon, voilà, le dossier est bouclé, il est étayé par des aveux. Total succès. Mais en vérité, à ce moment-là, le juge d'instruction a des doutes, de sérieux doutes sur la culpabilité de ce garçon. Alors le 4 septembre, il le fait extraire de sa prison et il le fait revenir dans son bureau. Bonne âme, il lui a même choisi un avocat commis d'office, maître André Soulier, un petit jeune qui débute.
Bien Jean-Marie, maintenant il faut me dire la vérité. C'est grave. Est-ce que tu as tué l'enfant, oui ou non ?
Ah ben non, monsieur le juge.
Tu l'as pas tué.
Ah ben non, monsieur le juge.
Alors pourquoi avoir dit que c'était toi ?
À cause des piqûres, monsieur le juge.
Des piqûres ? Quelles piqûres ?
Le commissaire, il m'a posé des questions. Il m'a dit qu'il allait me piquer du sérum de vérité pour voir si je mentais. Et moi, je veux pas de piqûres. J'en veux pas.
Mais à moi aussi. Tu as dit que c'était toi.
Je vous l'ai dit. Mais je le pensais pas. Je disais comme si je l'avais fait, mais c'est pas vrai.
À partir de ce jour-là, le jeune Jean-Marie Devaux ne changera plus d'avis. Il n'a pas tué Dominique. Pourquoi le juge a-t-il des doutes, d'après vous ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. La voisine dit que Dominique sonne chez elle à 3h15, 3h20. Or, Madame Bessard, la bouchère, revient au magasin à 3h15 et elle tombe sur son commis, Jeannot. Ben, c'est donc qu'il n'a pas pu commettre le crime, c'est impossible. À l'heure du crime, c'est-à-dire à 3h20, il était avec sa patronne. Il n'a pas pu tuer Dominique. Techniquement, il n'a pas pu. Sauf qu'entre-temps, voyez-vous, la voisine et la mère, qui ont bien compris que leur déclaration innocentait Jeannot, ce gogol de Jeannot, ce neuneu de Jeannot, comme on dit dans le quartier, alors, à bien y réfléchir, elles se sont peut-être trompées d'horaire. La voisine, d'abord.
Je vous ai dit que la gamine avait sonné chez moi à 3h15, 3h20. Je me suis trompé. C'était ben avant, hein, oui. C'était ben avant.
Et la mère, Madame Bessard, idem.
Je vous ai dit que j'étais redescendu au magasin vers 3h, 3h15.
Oh, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. C'était bien après.
Et donc maintenant, Jeannot a parfaitement eu le temps de tuer la gamine et de remonter au magasin et de nettoyer les couteaux et de les sécher. Heureusement qu'elles ont retrouvé la mémoire, ces deux-là. Mais il y a encore un problème, une incohérence. Le légiste qui a réalisé l'autopsie dit qu'elle a d'abord été égorgée et ensuite poignardée au ventre, dans cet ordre. Et comment le sait-il ?
S'il y avait du sang dans l'abdomen, j'en aurais conclu qu'elle avait d'abord été frappée au ventre. Mais il n'y en avait pas. C'est donc qu'elle a d'abord été égorgée.
Or, dans ses aveux, même si depuis il s'est rétracté. Le jeune Jeannot dit qu'il a d'abord frappé le ventre et qu'ensuite il a tranché le cou. Dans ce cas-là, il aurait dû y avoir du sang dans l'abdomen et il n'y en avait pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Mais le légiste ne peut pas changer son rapport d'autopsie comme les témoins ont changé leur témoignage. Qu'à cela ne tienne, le juge désigne deux nouveaux experts de Paris. Évidemment, il n'est pas question, deux mois après, de leur faire faire une deuxième autopsie. On leur envoie juste des photos prises au moment de la première autopsie. Et leur réponse n'est pas parisienne, elle est normande.
Il n'est pas impossible que le meurtrier ait frappé d'abord au ventre, et puis à la gorge. Mais disons qu'à notre sens, l'inverse est plus probable.
Tête back, oui. Tête back, non. Avec ça, on est bien avancé. Et c'est dans cet état brinque-ballant que le dossier part devant la cour d'assises de Lyon. Ou soyons clairs, hein, Jean-Marie Deveau risque la guillotine. Le procès du jeune Jean-Marie Deveau s'ouvre le 4 février 1963. Pour l'occasion, le président a exigé un micro pour que tout le monde l'entende haut et clair. À l'époque, c'est très novateur. Et fort de son micro, il donne le ton dès la première seconde.
Deveau, vous êtes accusé d'avoir le 7 juillet 1961 volontairement donné la mort à Dominique Bessard. C'est cela ?
Ouais, monsieur le président.
Une enfant de 7 ans. Le directeur de l'école où vous étiez en primaire dit de vous, je lis, élève médiocre mais doux et docile, vivant un peu en dehors de la réalité. Et d'autres maîtres disent, il n'a pas le regard franc. Un de vous, pas le regard franc. Un peu comme aujourd'hui. C'est pas votre père qui dit, c'est un garçon qui n'avoue jamais même s'il est coupable. C'est décidément une habitude. Un de vous.
Le président s'accroche ensuite à une histoire de chat.
Votre patron de vous, vous avez donné un petit chat. Et je lis que vous lui avez cassé les reins.
C'est un accident, ça. J'ai voulu prendre un escabeau, je l'ai échappé, et le chat, il était dessous.
Mais comment avez-vous pu lui casser les reins? Enfin, c'est un acte barbare.
C'est pas moi, je vous l'ai dit. C'est un accident, je suis innocent.
C'était un petit chat innocent, il avait confiance en vous. Et il est mort dans d'atroces souffrances. Alors, Deveau, on tue les petits chats, et puis on s'attaque aux petites filles.
Le jeune Jean-Marie est comme pétrifié. Et c'est pas fini. Le président lit maintenant le rapport de l'expert psychiatre.
Voici ce qu'il a écrit. On se trouve en présence d'un adolescent prolongé, profondément immature sur le plan affectif, profondément névrotique dans son comportement, sexuellement immature, pudique, refoulé et complexé. Et il ajoute, âge mental, 8 ans.
Et puis on en vient au fait. Et là, le jeune Jeannot répond à toutes les questions par
« C'est pas vrai. Je suis innocent, j'ai inventé. »
Le commissaire qui a mené l'enquête vient dire que, comme le juge d'instruction, il a des doutes sur la culpabilité de Jean-Marie Deveau. Mais ça n'a pas l'air d'intéresser le président.
Bien, merci. Pas de questions ?
Et il suspend l'audience. Le lendemain, vient à la barre le policier qui a terminé l'enquête et qui a recueilli les aveux.
Lorsque Deveau m'a été présenté, je lui ai dit « As-tu dit toute la vérité, Jeannot ?» Et là, il a baissé la tête. Et je lui ai dit « Est-ce que t'as entendu parler du sérum de vérité ?»« Non ? » ?»« Eh ben, on fait une piqûre à l'accusé, et s'il dit pas la vérité, ben, on le voit tout de suite, sur un appareil. » Il m'a dit « Je veux pas qu'on fasse le sérum de vérité. » Et là, il a répondu, j'ai peur que ça me fasse mal. Alors, on te le fera pas, je lui ai dit. Mais il faut me dire la vérité. Et là, Deveau m'a avoué que, sans que je le questionne, hein, plus avant, que c'était lui qui avait tué Dominique.
Et maintenant, j'en viens directement au réquisitoire de l'avocat général. C'est la dernière ligne droite de ce procès. Et il ne vous a pas échappé que dans cette affaire, il manque un mobile.
pourquoi diable Jean-Marie aurait-il tué Dominique? Eh bien, l'avocat général va en imaginer un. On est très loin de la justice, hein. Place à la ligue d'improvisation.
C'est le geste criminel du voleur surpris. Il est seul dans la boutique. Et il est désireux d'exploiter le tiroir-caisse. Et Dominique revient au moment où il dérobe quelque chose. Et elle lui dit, c'est très vilain ce que tu as fait là, Jeannot, je vais le dire à maman. Et là, Deveau s'affole. Et il décide de faire disparaître le témoin.
Grand seigneur, il lui accorde tout de même des circonstances atténuantes.
Il ne faut tout de même pas oublier que c'est un attardé.
Et il réclame 20 ans de réclusion criminelle. Il est bien jeune, Maître Soulier, l'avocat qui a la lourde charge de défendre Jean-Marie Deveau. Et il ressuscite les témoins oubliés.
6 témoins. Vous entendez 6. Ont vu un homme de type nord-africain venant de l'immeuble où Dominique était morte et courant à toutes jambes en direction du cantonnement Berlier. Cet homme, plusieurs habitants du quartier l'ont vu rôder quelques jours avant le crime. Et ils ne l'ont pas revu depuis.
À la fin de sa plaidoirie, il s'approche de Deveau.
Regardez-le. Il a 8 ans d'âge mental. Et il ne peut rien dire. Il ne comprend rien. Ça n'est pas de sa faute s'il est bête.
À 17h, la cour et les jurés se retirent. Ils sont de retour 2h30 plus tard.
Accusé, levez-vous, je vous prie. À la question « Jean-Marie Deveau a-t-il volontairement donné la mort à Dominique Bessard ?» La réponse est oui. En conséquence, la Cour vous condamne à 20 années de réclusion criminelle.
20 ans ! Mais lui, il n'a pas compris. Il se tourne vers son avocat.
« C'est vrai, maître ? Je sors ce soir ?»
Mais l'histoire n'est pas finie. Car un nouveau personnage apparaît dans la vie du jeune Jean-Marie Deveau, un curé, l'abbé Robert Boyer, visiteur de prison, à qui on l'a dit un jour,
« Vous devriez le voir. C'est un pauvre gosse. »
Alors il va le voir, et il l'écoute. Et en sortant, il monte un comité de soutien, comité auquel adhère un certain nombre de gens qui comptent beaucoup à l'époque. Jean Rostand, oui monsieur, de l'Académie française. Eugène Claudius Petit, vice-président de l'Assemblée nationale, et Frédéric Potcher, journaliste à Europe numéro 1. L'idée du père Boyer est de déposer une demande de grâce auprès du président de la République. Mais ça ne plaît pas du tout à Jean-Marie.
La grâce ? J'en veux pas. Ça serait avoué. Moi, je suis innocent. Mais Jean-Marie, si vous pouvez sortir plus tôt... Si vous faites ça, mon père, c'est plus la peine de venir me voir. Je serai plus votre ami.
Ah, il a pris de l'assurance, hein, le petit Jeannot. Mais il reste fragile. En 1967, à la prison de Melun, il fait une tentative de suicide. Et il enchaîne avec une grève de la faim de 40 jours. Mais il arrête quand le père Boyer vient lui dire
« Jeannot, ça y est ?» Le ministre de la Justice va demander la cassation de ton jugement.
Car le père Boyer est allé voir le garde des Sceaux René Capitan en personne. Et il lui a révélé des informations qu'il tient de l'avocat de Jeannot, Maître Soulier. 2 jurés disent qu'ils ont été manipulés par le président de la cour d'assises. Les mêmes jurés racontent que les délibérations ne se sont pas tenus dans la salle des délibérés, comme c'est l'usage, mais dans le bureau personnel du président, ce qui change tout. Parce que dans la salle des délibérés, les jurés et les magistrats sont installés autour d'une table, à égalité.
Alors que dans le bureau du président, le magistrat place trône derrière son bureau. C'est lui qui a le pouvoir. Voilà en tout cas un joli motif de cassation. Mais ça n'est pas tout. Toujours d'après ces deux jurés, le président leur a raconté que juste avant le procès, il est allé sur les lieux du crime à Bron, avec le commissaire et avec l'avocat général. Il a oublié les avocats, dites donc, et les jurés. Le procès a en quelque sorte commencé sans eux. Et en plus, il y a une preuve de ça. Hein. Les trois oiseaux sont allés à Bron dans une voiture du commissariat et c'est écrit sur le registre des entrées et des sorties de l'hôtel de police. Ah bah dis donc, si avec ça le jugement n'est pas cassé... Il est cassé, je vous rassure. Le 4 mars 1969, le verdict qui condamnait Jean-Marie Devaux est annulé. Rendez-vous pour un nouveau procès, à Dijon.
Mesdames et messieurs, la cour !
Et d'entrée, tout le débat porte sur les coups de couteau. Vous vous souvenez que le premier légiste dit « Dominique est morte égorgée et le coup à l'abdomen a été donné après ». Mais vous vous souvenez aussi que dans ses aveux, Jean-Marie a dit qu'il avait d'abord frappé l'abdomen et ensuite la gorge. Maître Soulier demande au légiste.
« Professeur Roche,
comment meurt-on d'un coup à l'abdomen ?
Je répète ce que je vous ai dit. L'enfant est mort en quelques secondes de l'égorgement. On ne meurt pas si vite de coups que l'on reçoit à l'abdomen.
Ce que confirme un deuxième expert.
Moi, personnellement, j'ai fait des expérimentations sur des chiens. Et je suis absolument certain que l'égorgement a précédé les coups portés à l'abdomen. Absolument certain.
Et comme Jean-Marie Devaux dit l'inverse, eh ben alors ça fait planer un doute sur la valeur de ses aveux. Et puis vient le moment où le fameux commissaire, celui qui a fait changer les témoins de position, est appelé à la barre. Au premier procès, il avait joué du billard. Si on en croit Frédéric Potcher d'Europe numéro 1, là c'est de la brasse coulée.
Le témoin transpire, va et vient, s'éponge, parle toujours, se reprend, et plusieurs fois, le président doit le remettre sur les rails. Et le président, à la fin, s'énerve. Les faits, monsieur le commissaire, voyons, les faits, sinon je vous retire la parole.
Le réquisitoire est terrible. Après quoi, Maître Soulier plaide pendant 3h30 dans un silence absolu, tendu.
Je dis qu'en 8 ans, messieurs, la partie civile et la police n'ont pas réussi à trouver une explication à ce crime. Ni un mobile. Enfin, rien. Rien.
Les jurés se retirent pour délibérer. Et chose incroyable, ils sont de retour au bout de 35 minutes seulement.
À la question, Jean-Marie Devaux a-t-il volontairement donné la mort à Dominique Bessard ? Les jurés ont répondu non. En conséquence de quoi, Jean-Marie Devaux est acquitté.
Vous voyez, je vous surprends en train de pleurer. Ça fait 8 ans. 8 ans.
Je suis quand même heureux d'avoir entendu tout à l'heure Monsieur le Président dire « Devaux n'est pas coupable ». Il y a 8 ans que nous l'attendions. Il faut maintenant aider Devaux à reconstruire sa vie, à marcher avec les hommes libres. Mais ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile. Il ne sait plus ce que c'est que la vie quotidienne avec ses multiples soucis. Et je lui ai dit un jour que je ne l'abandonnerai pas. Eh bien, aujourd'hui, je peux le répéter, je n'abandonnerai pas Devaux.
Et Jean-Marie Devaux est libéré le lendemain.
Il est 7h33 exactement à ma montre. La porte de la prison de Dijon s'ouvre. Ici, la foule est nombreuse pour accueillir Jean-Marie Devaux. Il sort en compagnie de son avocat, il porte sa valise. Jean-Marie Devaux, alors ?
Je suis très content.
Simplement, vous dites ça. Vous ne ressentez pas autre chose?
Non, c'est tout.
Comment?
C'est tout, pour l'instant.
Mais ces applaudissements, que signifient-ils?
J'en suis très ému et très touché.
En 1972, son avocat lui obtient une indemnisation en réparation des 8 années passées en prison pour rien. 125 000 francs. Avec l'argent, il s'achète une maison de campagne à Port-Camargue et il offre une voiture au père Boyer. Il n'a jamais plus fait parler de lui. Et le meurtre de la jeune Dominique est resté à jamais un mystère. Et cette histoire, vous la retrouverez en partie racontée par l'un des acteurs centraux de cette histoire, Maître André Soulier, qui est là avec nous et qui vous avez donc été l'avocat de Jean-Marie Devaux. C'est quand même complètement magique, 60 ans après, d'avoir encore quelqu'un qui a vu l'ours.
Non seulement c'est magique, mais j'ai vu Jeannot, il n'y a pas très très longtemps, qui m'a dit, devenu grand-père, est-ce que je peux vous demander quelque chose? J'ai dit, ben, dis-moi, est-ce que je peux te dire tu?
Ah!
Les plus beaux honoraires de ma vie.
Donc il est toujours vivant?
Il est toujours vivant, c'est un grand-père qui n'a jamais fait parler de lui, un père de famille, les uns et les autres, son père qui a été frappé 48 heures après le verdict et le comportement du président de la première cour d'assises, donc, d'une hémiplégie et qui est resté infirme jusqu'à la fin de ses jours, condamné à perpétuité, qu'il m'avait dit tout de suite après la condamnation ou 48 heures plus tard, je sais qui a fait condamner Jeannot, c'est moi. Voilà. Donc il s'est exécuté. 60 ans après, c'est encore là.
Il a le droit de dire merci André, tu as été formidable avec moi.
Oui, c'est... C'est un de mes petits, quoi.
On dit d'ailleurs qu'il est limité, demeuré, gogol, neuneux. Quelle est l'exactitude?
Alors, ce que je vais dire est terrible en même temps, parce que cet homme est innocent, j'en suis convaincu très très vite. Vous l'avez raconté avec tellement de justesse que je n'ai rien à ajouter sur ce point. Mais... C'est un enfant que je reçois et que j'assiste.
Il est mineur à l'époque, d'ailleurs.
On ment. Il est mineur à l'époque. Il a 19 ans. On ment autour de lui. On échafaude. On monte des coups. C'est incroyable. Le livre le raconte de façon étendue. Mais la prison et la certitude qu'il est innocent et le combat qu'avec mon ami Boyer... jésuite éminent, nous allons conduire, va le durcir, va le faire changer. Et paradoxalement, 8 ans plus tard, bien entendu, c'est plus le même homme. Et toute sa vie...
Il a fait des progrès.
Mais je vais révéler quelque chose qui est important. Il a dit, Jeannot, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas sortir? Je veux devenir mécanicien, je veux devenir tourneur, etc. Il est entré... aux usines Berliet, à Lyon.
Les mêmes que celles du cantonnement.
Oui, il y a fait toute sa carrière.
Donc il n'était pas si demeuré que ça.
Non, il avait changé. Il avait grandi, c'est-à-dire qu'une espèce de diagnostic psychique aurait montré un ébranlement profond, et cet homme s'est changé et s'est devenu un homme.
Avant d'entrer dans quelques points du dossier, un mot sur l'abbé Boyer. Quel personnage! Il n'y en a plus beaucoup des curés comme ça aujourd'hui. Il est moins timoré que les curés d'aujourd'hui, quoi. C'est un bâton.
Il se trouve que, par les circonstances de la vie, je révèle que je suis un des plus vieux francs-maçons de France aujourd'hui. Je n'ai pas honte de le dire. Liberté, liberté, je te chéris. Il se trouve que, à plusieurs reprises, depuis une vingtaine d'années, je suis intervenu dans des affaires importantes de l'Église, notamment sur la séparation. La loi de séparation de 1905, si républicaine, si nécessaire, si indispensable aujourd'hui encore. Et il se trouve que j'ai accumulé des amitiés. Robert Boyer, ce jésuite, est tombé chez moi, comme ça, un matin, et l'amitié a été totale. Cet homme savant, qui a étudié le dossier avec moi et qui a discuté avec moi, est un homme qui ensuite a voulu devenir avocat. Je vais dire quelque chose parce que... Il a voulu devenir avocat ensuite. C'était un jésuite, il n'avait pas abandonné du tout son officiat. La première conversation, elle me peine encore, mais j'avais raison. Je lui avais dit, tu sais Robert, il y a une différence considérable entre toi et moi. Toi, tu as été appelé pour répandre la parole avec un grand P. Moi, je me contente de la minuscule. Attention, un jour, ce métier va être difficile pour toi, mais naturellement, je t'y encourage. Bienvenue, je t'embrasse.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est que l'enjeu de ce dossier, c'est la peine de mort. Il risque la peine de mort, assez clairement. La question se pose au procès. Non, l'avocat général ne le demande pas dans son réquisitoire au premier procès.
Non, et je vais en profiter pour vous dire quelque chose de très important. J'ai vu dans cette affaire, qui est probablement une des plus grandes affaires criminelles, Jacques Vergès disait des trois derniers siècles pour magnifier l'avocat, il en ajoutait un peu, des magistrats, des policiers, ce sont pas tous. Certains ont été à la hauteur de leur tâche, mais se sont conduits à l'égard d'un commis boucher, comme on s'était conduit à l'égard d'un capitaine juif qui s'appelait Alfred Dreyfus. Je fais la comparaison entre les deux. Eh bien, la satisfaction, je ne sais pas si un paradis existe, si l'Éternel ou celui dont on ne prononce pas le nom est d'accord avec moi sur ce plan-là. Nous n'avons, Jeannot et moi, Robert Boyer non plus, briser aucune carrière de magistrat ou de policier. Puisse l'affaire Devaux inspirer un certain nombre de magistrats qui de temps en temps prennent un peu de liberté avec les libertés.
Il ne leur est rien arrivé à ces magistrats, on est d'accord.
Sont devenus...
Pas de sanctions.
Non.
Ils sont devenus premier président, patati patata.
Commissaire divisionnaire, oui. Premier président de cour d'appel, etc. Très bien, bravo. J'espère que dans leur conscience, ils ont expié le forfait qui avait été commis.
Cette affaire est un formidable argument contre la peine de mort. Parce que s'il avait été condamné lors du premier procès à la peine de mort et exécuté, alors on n'aurait jamais vu jaillir la vérité qu'il était innocent.
Oui, et puis alors, il y a une deuxième chose qui est très contemporaine, donc je voudrais vous dire, vous avez parfaitement raison de poser cette question, mais il y en a une seconde. Je vois que mon ami, le ministre de la Justice, Maître Éric Dupond-Moretti, dit on va être, pour des raisons de personnel et de rapidité, de la sanction, on va, pour les cours d'assises, privilégier dans un premier temps et en première instance le jury composé de magistrats seulement. Je pose la question.
Pour les affaires moins graves qu'un meurtre. Hein,
j'entends ce qu'on veut dire, oui. Ce que vous me dites. Mais de toute manière, déjà, quand vous avez une plaie qui est quelques années d'emprisonnement, je dis, si les jurés populaires n'avaient pas existé à l'époque, les deux jurés qui viennent de me dire en 1965 le forfait qui a été commis par le président de la cour d'assises sortante,
oui.
Je n'aurais pas réussi. Et Robert Boyer non plus, à mes côtés, à convaincre René Capitan, d'abord Louis Jox,
oui.
Mais qui a été débouté quand même.
Il y a Louis Jox, qui est le premier garde des Sceaux auprès duquel vous déposez votre demande.
Il y a eu Foyer, mais Foyer est écarté, il y a des élections en 1967. Louis Jox qui, comme par hasard, devient...
Vous rendez compte, si c'est Louis Jox étant le père de Pierre Jox.
Oui.
Ça nous renvoie quand même très très loin. Hein,
non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable à cette époque. C'est formidable. Et Louis, je n'use pas des proximités. Le Louis Jox qui est député dans mon coin, je n'ai pas voté pour lui, je le dis à l'époque. Mais, et Pierre, nous militons ensemble, lui et moi, à la Convention des institutions républicaines avec Mitterrand. C'est incroyable. Eh bien, si le jury populaire n'avait pas existé à l'époque...
Il n'aurait pas été acquitté.
Si mon père n'avait pas été chauffeur de taxi, amenant les magistrats quand ils ont fait une petite visite clandestine dans les quelques jours avant l'audience de la cour d'assises...
Ah, c'est votre père qui les conduit ?
Non.
Sur les lieux du crime ?
Justement, ils se sont dit, attention, le père est chauffeur de taxi, si jamais on prend un taxi, les magistrats et les policiers pour aller sur les lieux...
Ils ont pris la voiture des policiers, oui, c'est vrai.
Ils vont bavarder, et Soulier va le savoir, Soulier, André. Bon, très bien. Et c'est ainsi qu'ils vont prendre une voiture. L'administration et l'administration. Je t'aime, administration.
Alors, selon vous, André Soulier, qu'est-ce qui entraîne, quel est l'argument qui entraîne l'acquittement de Jean-Marie Devaux à l'issue du deuxième procès ? Qu'est-ce qui, selon vous,
a véritablement convaincu les jurés qu'il était innocent.
Il y a eu trois arguments. Il y a le problème de, effectivement, le problème des expertises. Le professeur Roche.
L'égorgement d'abord.
Le professeur Roche.
Et l'abdomen après ou l'inverse.
Qui va revenir en cédant un peu sur une petite expertise qui a été faite par des hommes qui n'ont pas pu autopsier l'enfant parce qu'elle était inhumée, la pauvre enfant. Un anatomiste vétérinaire va venir et va dire c'est impossible. D'abord, entre nous, si vous essayez d'égorger quelqu'un, je ne vous conseille pas de le faire, mais et que vous ayez une montre, que vous ayez un tablier blanc, que vous ayez des chaussures.
Il y aura du sang partout.
Bah, on n'en trouve nulle part. C'est dans le dossier. C'est le premier point. Le deuxième point, il est évident qu'il y a deux commissaires de police qui sont en désaccord. Il y en a un troisième qui intervient. Il s'appelle Paul Chavalor. Il a réussi à faire gracier des gens. Et il est venu me seconder. Et c'est là où il y a un incident incroyable. Je suis obligé de le raconter dans le livre. Lorsque il y a une suspension d'audience. Ces messieurs sont allés sur place, avec la police, sans les avocats, sans moi-même. C'est quelque chose qui est inimaginable. Je le dis au président. Quand les débats reprennent, le commissaire Chavalor, le président Chavalor, est là, à la barre, et l'un des assesseurs dit « Dites-moi, vous avez touché combien pour votre contre-enquête, monsieur le commissaire ?» Et Chavalor se raidit. Et dire rien, comme la défense. Nous aidons. Et profitant de la suspension d'audience, de la fin de l'audience, alors que Devaux vient d'être acquitté, Chavalor disparaît. Il a plus de 70 ans, c'est pas un jeune homme. Et il va dans la salle de délibération. Les jurés sont partis. Mais il reste le président, l'avocat général et les deux assesseurs. Il s'approche de l'assesseur qui lui a posé la question. « Vous êtes bien monsieur Untel ?»« Oui. » »« C'est vous qui m'avez posé la question ?»« Oui. » »« Pan, pan !» Et il le gifle.
Sérieux ?
Il le gifle.
Quelle époque. Et, voilà. Alors, y a quand
naturellement,
même...
ça a été étouffé, il n'y a pas eu de procès.
On bute donc sur le mobile, moi, c'est ce qui me saute aux yeux dans cette affaire, c'est-à-dire, au fond, que ce soit Jean-Marie Devaux qui ait tué cette gamine, ou que ce soit un ouvrier des usines Berliet, dans les deux cas, on bute sur le mobile, puisqu'il n'y a pas eu atteinte sexuelle. S'il y avait eu atteinte sexuelle, il était cuit,
oui.
Jeannot.
Oui, peut-être. Mais ce qui est sûr, pourquoi ? J'aurais établi le temps. Nous sommes en 61, au mois de juillet 61.
Oui.
N'oubliez pas que quelques semaines plus tôt, il y a eu un événement considérable à Alger. Quatre généraux se sont révoltés.
Oui, on est en pleine guerre d'Algérie, là, oui.
Bien. Et naturellement, un an plus tard, c'est l'indépendance. Le FLN règle ses comptes avec le Messaliadj et ses amis.
Mais quel rapport avec Devaux ?
Mais tout simplement, il n'y a pas de rapport avec Devaux. Il y a le fait que... Il y a des ouvriers nord-africains qui sont probablement aussi, c'est une hypothèse,
oui.
Qui sont probablement endoctrinés.
Ah, ce serait un attentat du FLN, d'une certaine manière.
Ce serait quelqu'un qui aurait cherché, qui aurait profité des caves qui sont juste en face de l'autre côté du parc pour dissimuler des, je ne sais quels objets, peut-être des armes, peut-être, et qui aurait été surpris là par un enfant qui arrive comme ça et il l'égorge. C'est une des hypothèses. Oh, ça, on sait. Tenu complètement, l'affaire d'Algérie était beaucoup plus importante que l'affaire Devaux.
Oui. Vous l'avez utilisé, cet argument, à l'époque ?
Oui, je l'ai plaidé à fond de train en 1969.
La partialité du juge de première instance, le délibérer dans son bureau, je n'avais jamais entendu une histoire pareille. Il est convenu qu'à la cour d'assises, on délibère, les trois magistrats sont là, les six jurés sont avec eux, chacun est autour de la table et tout le monde est assis sur des chaises à la même hauteur. Dans le bureau, ça le pose en Saint-Louis sous son chêne.
Et ils commettent une forfaiture que j'ai décrit, que j'ai développé devant la cour de cassation et ensuite devant la cour d'assises. C'est-à-dire qu'il dit, si Devaux est revenu sur ses aveux, le lundi matin, quand le juge l'appelle, alors que je ne l'ai pas vu à la prison ailleurs, c'est son avocat qui, pour sa carrière, l'a amené à se rétracter.
Mais enfin, il dit ça ?
Oui, bien sûr.
Au juré ?
Le garde des Sceaux reçoit le rapport des deux jurés. C'est pour ça que les jurés populaires, je dis à mon ami Éric Dumont-Bomboretti, attention, les jurés populaires, ça existe.
C'est bien.
Voilà. Et
il doit penser à la même chose que vous.
Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et il dit, écoutez, on ne va pas briser la carrière d'un avocat. Vous avez vu la carrière qui s'annonce pour cet homme ? Il est éloquent. Vous avez vu comment il a plaidé ? Mais il a menti. Simplement, il transgresse le code de procédure pénale.
Ah, pas qu'un
peu. Il aurait pu me poser la question en pleine audience. Il aurait pu me faire venir dans la salle des délibérations. C'est ça que me révèlent les jurés. Il me révèle une forfaiture.
Alors, dans votre livre, qui s'appelle donc « Mes mille et une vies » et qui paraît au Cherche Midi, André Soulier, ce chapitre-là a un titre. Et je le trouve assez mystérieux. Vous l'appelez « La fabrication d'un coupable ».
Oui.
Qui a fabriqué quoi et pourquoi ?
Des policiers et des magistrats.
Et pourquoi ?
Tout simplement parce que, à l'époque, ils estimaient que c'était pas grand-chose. Un pauvre comme une bougie de 19 ans, il y avait une petite qui était morte. Ça avait soulevé une émotion populaire dont vous imaginez à quel point elle était intense. Qui m'a fait dire, d'ailleurs, quand j'ai fait acquitter Jean-Marie quelques années plus tard, les gens applaudissaient et tout, et moi j'étais triste. J'ai dit, je pense en ce moment à une enfant qui a été massacrée par quelqu'un dans des conditions effroyables. On ne sait pas et on n'a pas conclu d'enquête pour essayer de rechercher un autre suspect. Alors que, 6 mois plus tard, après tout ça, dans le même immeuble, une femme a été tuée, on n'a jamais trouvé l'assassin non plus.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, donc, vous dites qu'ils ont fabriqué un coupable pour résoudre cette enquête, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'ils ont fabriqué un coupable pour ne pas trouver le vrai, parce que ça a eu posé des problèmes politiques d'arrêter un Algérien au cantonnement Berlier ? Silence.
En anglais, everything is possible. Tout bon, est possible.
Yes, yes, yes. Alors, un point qu'on vous doit beaucoup, je l'ai dit, Jean-Marie Devoy a tout de même été indemnisé pour ses années passées à tort en prison. Il reçoit donc 125 000 francs. Je ne me rends pas compte ce que ça représente à l'époque, c'est beaucoup.
Ah ouais, bah écoutez, aujourd'hui, ça représenterait quelques millions d'euros.
Ah, quand même.
Ou 2, 3 millions d'euros.
Et à l'époque, il n'y a pas de loi qui prévoit l'indemnisation des gens acquittés ?
Non, il faut que vous prouviez la faute de l'État lorsqu'une erreur a été commise. Mmh. Mais, vous imaginez, devant des magistrats, le désaveu était impossible. Et c'est ainsi qu'ayant usé 3 gardes des Sceaux, Capitan, Jox et des foyers qui est parti le premier, j'aborde Pleven.
Qui est le nouveau garde des Sceaux.
Le nouveau garde des Sceaux de Chavandelmas. Car
Chabandelmas, Pleven, oui, vous nous rajeunissez,
attendez,
Maître Soulier.
Car l'arrêt de Lyon est cassé 3 jours après que le général de Gaulle soit parti. On casse un mercredi alors que de Gaulle a cessé ses fonctions le dimanche soir parce qu'il est battu au référendum. Donc je suis dans une nouvelle ère avec Pompidou, avec Chabandelmas et avec Pleven. Et je dis, ça n'est pas possible, vous ne pouvez pas, il faut réparer ces erreurs. Par conséquent, si on a commis une erreur, il faut réparer, et c'est ainsi que on fait voter cette loi.
Une
et
loi dont vous êtes le premier bénéficiaire. Dont Jean-Marie est le premier bénéficiaire.
J'ai été le premier à le plaider.
Vous lui prenez pas un peu de l'argent pour payer vos honoraires ?
Non, non, vous savez, ça faisait 8 ans que jeune avocat au départ, sans argent, et puis ma carrière s'était accélérée.
Donc ça va.
D'ici 1969, j'étais devenu un peu plus prospère.
J'ai adoré parler avec vous, bien sûr, André Soulier, et je renvoie à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la justice depuis une soixantaine d'années, à ce livre qui raconte votre carrière avec des photos, là je feuillette, il y a Jean-Paul II avec vous.
Oui. Hein,
donc vous avez rencontré...
Et Jean-Michel Jarre, on avait construit...
Et Jean-Michel Jarre, et Gorbatchev.
À Gorbatchev, j'ai travaillé avec... j'ai aidé la Green Cross, c'est-à-dire la Croix-Rouge russe avec Gorbatchev, et avec Barre, j'ai voyagé dans le monde.
Je vois Raymond Barre à côté de vous. Écoutez, vous êtes une mémoire vivante, André Soulier. C'était formidable de vous avoir pour cette interview. Votre livre s'appelle « Mes mille et une vies », avant-propos de Robert Badinter tout de même, aux éditions du Cherche Midi.
Monsieur Ondelat, ça me permet de vous dire ceci. C'est un honneur pour moi d'être venu convié avant une de vos émissions.
Comment vous m'appelez ? Parce que je sais que vous m'avez donné un surnom.
Vous êtes Sisyphe.
Et pourquoi ?
Vous poussez le caillou pour faire avancer la justice, mais...
Il redescend.
Oui, c'est difficile d'atteindre le sommet.
Merci infiniment.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.